Le football à la une, un deuxième club français vainqueur de la Ligue des Champions. 32 ans après l'OM, le PSG soulève à son tour le plus prestigieux trophée des clubs, sacre célébré jusqu'en Calédonie. Justice, la suite des procédures concernant les membres de la CCAT mise en examen après les émeutes. Frédéric Mouliava peut revenir sur le territoire, mais elle restera toutefois sous contrôle judiciaire. Le vide-grenier mensuel de la place des Cocotiers, encore une forte affluence ce matin et des articles très prisés, les linges pour bébés. La journée culinaire au consulat général d'Indonésie à Nouméa, un rendez-vous des gourmands et une page d'histoire qui était à découvrir aujourd'hui. À l'international, le bilan de la tournée en Asie du Sud-Est d'Emmanuel Macron, un voyage qui doit marquer le début d'une nouvelle ère selon le président de la République. Retour au sport, le premier trail de Tomovalley. Les coureurs ont mis les gaz pour une course à pied sur les circuits de drift et de rallye de Boulou-Paris. Et à la fin de ce journal, vous retrouverez la rediffusion du magazine Transparence dont l'invité vendredi dernier était François-Xavier Bellamy, eurodéputé, vice-président des Républicains qui était en déplacement sur le territoire. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Un événement sportif national à la une. On parle évidemment de la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions, le plus prestigieux des trophées des clubs de football. Un succès de Paris face à l'Inter Milan sur le terrain de Munich sur le score de 5-0. Les Parisiens n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires du jour pour conquérir enfin le titre qui leur manquait. Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Lorsque le capitaine du PSG, Marquinhos, a soulevé le trophée de la Ligue des Champions à Munich, les 48 000 spectateurs du Parc des Princes ont chaviré de bonheur. Des supporters en rouge et bleu, debout, chantant, agitant les drapeaux, allumant des fumigènes.
Le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions !
Victoire éclatante, 5-0, jamais dans l'histoire de la Ligue des Champions, un vainqueur s'était imposé en finale avec un tel écart. Le défenseur brésilien Marquinhos, présent au club depuis 12 ans, les larmes aux yeux et à bout de force, a confié son émotion au micro de Canal+.
Je te connais, je voulais trop ça, on a souffert, ça fait 12 ans, elle est dure, elle est très difficile. Et ça montre la valeur de ce club. Je vous ai profité, nous on va profiter d'ici.
Et le PSG a pris tout de suite les commandes du match. Après 20 minutes, il y avait déjà 2-0. C'est Hakimi qui a ouvert le score à la suite d'une merveilleuse action collective. En seconde période, Paris a encore inscrit 3 buts humiliant l'Inter Milan. L'homme du match, c'est évidemment Désiré Doué, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Il fêtera dans 2 jours ses 20 ans.
Merci Paris, on l'a fait les gars, on a écrit l'histoire.
C'est un rêve qui devient réalité, c'est juste magnifique.
Et après une courte nuit à Munich, les footballeurs parisiens s'envoleront en fin de matinée avant d'être célébrés en héros cet après-midi sur les Champs-Élysées.
Le reportage de Cyril de la Morinerie. Et pour Europe 1, Cyril de la Morinerie pour Europe 1. Un moment qu'a vécu au plus près l'ancien joueur et coach du PSG, Antoine Comboiré. Il a vécu la soirée en tant que commentateur sur la chaîne M6. Il n'a pas caché son émotion à l'issue de cette finale incroyable. Antoine Comboiré.
J'arrive pas à y croire de me dire que ça y est, ils vont la soulever la coupe aux grandes oreilles. Et surtout, ils vont la ramener à Paris. Bravo à eux, vraiment. Je sais pas, pour moi, ça paraît indescriptible ce que... On peut dire maintenant que le PSG est un grand club, est un très grand club, un grand club européen. Quand vous avez donc une étoile là sur, le sur votre maillot, ça veut tout dire. Voilà, c'est la récompense de tout un travail. J'ai parlé de tous les dirigeants là, qui ont amené ce club-là aujourd'hui pour qu'on puisse vivre ce grand moment. Merci, merci à vous.
Le Calédonien Antoine Comboiré qui était à Munich pour commenter cette finale PSG-Inter Milan. Un résultat qui a donné lieu à des scènes de liesse et de joie dans la capitale, mais aussi dans plusieurs grandes villes de métropole. Mais on signalera que, comme le redoutaient les forces de l'ordre, des débordements ont éclaté. À Paris, des voitures ont été incendiées, des magasins ont été pillés. Au total, près de 300 personnes au moins ont été interpellées, selon la préfecture. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, parle de barbares venus dans les rues de Paris pour commettre des délits et provoquer les forces de l'ordre. À Grenoble, une voiture a heurté la foule qui fêtait la victoire. 4 personnes d'une même famille ont été blessées, dont 2 grièvement. Le conducteur du véhicule voulait effectuer des dérapages. Malgré ces débordements, les Parisiens fêteront cette victoire ce soir encore dans la capitale. Les joueurs participeront à une parade sur les Champs-Élysées, puis ils seront reçus par Emmanuel Macron à l'Élysée avant de rejoindre le Parc des Princes pour une célébration avec les abonnés du club. club. Une finale suivie de près aussi en Calédonie par tous les fans de Paris. Beaucoup s'étaient donné rendez-vous pour partager ce grand moment, comme c'était le cas dans plusieurs établissements de Nouméa, Charlotte Coulson.
Des centaines de personnes avaient choisi de se réunir pour vivre ce grand moment de football de Paris. À Nouméa, les maillots du PSG étaient de rigueur pour ceux qui voulaient suivre leurs équipes depuis le coup d'envoi à 6h pour nous. Et ils ont eu raison, le spectacle était au rendez-vous pour ceux qui ont donné de la voix à chaque but du PSG, jusqu'au coup de sifflet final.
Je suis parisien depuis que je suis tout petit, ça fait 35 ans que je supporte l'équipe. C'est comme en 98, j'avais 20 ans, là maintenant j'en ai 47. Et voilà, c'est génial. Pour l'instant c'est génial. Et c'est pas fini.
Deuxième finale de Ligue des Champions pour le PSG. Ça sent quand même beau pour l'instant, donc on va croiser les doigts. Plus de 40 ans que j'attends cette petite étoile sur le maillot. Et du coup, petite dédicace aux Marseillais, si on gagne cette Ligue des Champions, ils seront plus les seuls à avoir l'étoile.
Supporter l'équipe française et Paris notamment, et peut-être un but. Eh oui ! Eh oui ! Oui ! Voilà, vous avez compris pourquoi j'étais là ce matin. Pour vivre en fait un événement exceptionnel. En direct, même loin de Paris, ben, on est quand même avec eux.
C'est une émotion très forte. On est super contentes.
Oui, c'est la meilleure équipe du monde.
40 ans qu'on attend ça, donc bah voilà, là c'est la concrétisation de tout le projet du Paris Saint-Germain. Donc du coup, voilà, heureux de vivre ça.
Des scènes de joie, évidemment, jusqu'à la fin du match, avec un public qui était largement acquis à la cause de Paris. Et ce dimanche matin qui a débuté de la meilleure des manières pour tous les fans calédoniens du Paris Saint-Germain.
Encore une réaction sur le territoire, celle du président de la Fédération calédonienne de football, lui-même supporter du PSG. Gilles Tavergeux n'a pas caché sa grande satisfaction.
C'est historique, hein, surtout avec le résultat, la manière dans laquelle ça s'est déroulé. Je veux dire, moi, je suis très très satisfait pour cette belle équipe, et puis je veux dire pour l'ensemble des supporters, qu'ils soient calédoniens ou en métropole, je veux dire voilà, et dans tout le monde, hein, il y a des supporters du PSG partout. Donc voilà, c'est historique, et le résultat reflète aussi toute la saison, toute la campagne européenne pour aller gagner ce titre enfin. Le football, il ne peut sortir que grandi de cette belle finale, avec ce score peut-être flatteur pour le PSG, mais qui reflète aussi toute la saison du PSG, aussi bien dans le championnat de France que lors de toutes ces qualifs pour arriver à cette finale. Je veux dire, ils ont su rester très motivés et très concentrés sur cette compétition. Et je pense que l'entraîneur qu'ils ont actuellement, ben, il est pour une très très grande partie, puisqu'il a su allier la jeunesse à l'expérience pour pouvoir enfin décrocher ce titre.
Gilles Tavergeux, le président de la Fédération calédonienne de football, après cette victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan sur le score, on le rappelle, de 5-0.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Justice avec la suite de la procédure concernant des membres de la CCAT mis en examen pour leur rôle dans les émeutes de 2024. Frédéric Mouliava a été autorisé à quitter la métropole, Léana Colombo.
Oui, celle qui était directrice de cabinet de l'ancien président du Congrès en 2024, Roque Mitan, reste toutefois sous contrôle judiciaire. Comme 10 autres membres de la CCAT, dont Christian Théin, Frédéric Mouliava avait été mis en examen après le 13 mai 2024 dans une enquête d'abord instruite à Nouméa, des mises en examen pour des rôles présumés dans les émeutes et pour identifier les commanditaires des violences de l'année dernière. Frédéric Mouliava avait été transféré en juin 2024 dans l'Hexagone. Elle avait d'abord été incarcérée à Riom en Auvergne avant d'être assignée à résidence sous bracelet électronique. Pour mémoire, 8 membres de la CCAT sur les 13 mises en examen ont demandé le dépaysement de l'information judiciaire, c'est-à-dire pour confier à des juges parisiens l'enquête qui a été ouverte par le parquet de Nouméa. En métropole, une juge d'instruction a estimé que dans le cas de Frédéric Mouliava, il apparaissait disproportionné de contraindre la mise en cause à rester assignée à résidence en métropole. Elle peut donc revenir en Calédonie, mais elle reste tenue à des obligations, ne pas être en contact avec les autres personnes de la CCAT mises en examen dans ce dossier et ne pas participer à une manifestation publique.
En bref, dans les transports en commun, c'est aujourd'hui que le changement dans le réseau des bus rail entre en vigueur. On note que trois nouveaux trajets sont mis en place, Wailou-Point-Dimier, Tchioboulou-Paris et Yatebulari. Des lignes sont prolongées, Nouméavo via Népouy et Yengdenkone via Point-Dimier. Et d'autres, en raison d'une baisse de la fréquentation, sont réorganisées. Tous les itinéraires sont disponibles sur le site internet du rail. Les prix resteront les mêmes.
RRB, il est 17h55.
L'heure de jeter un coup d'œil sur l'agenda de la semaine et elle se terminera par un week-end de 2-3 jours, Léana.
Dimanche prochain, ce sera en effet la fête de la Pentecôte qui célèbre la venue du Saint-Esprit sur les apôtres 50 jours après la fête de Pâques, et le lundi de la Pentecôte est traditionnellement un jour férié. Une ordination diaconale de Pétello Taghizia aura d'ailleurs lieu à la cathédrale de Nouméa le dimanche de la Pentecôte.
Dans l'actualité institutionnelle, les élus du Congrès sont convoqués demain en séance publique pour examiner une loi du pays portant diverses dispositions d'ordre fiscal. Au chapitre politique, le FLNKS doit tenir une convention le week-end prochain pour décider de sa réponse à l'invitation du président de la République qui veut réunir toutes les parties prenantes calédoniennes à Paris à la mi-juin. Notez par ailleurs que l'Assemblée générale du MEDEF-NC se réunit jeudi pour renouveler ses instances et élire son président.
Dans le reste de l'actualité, c'est demain le début de la semaine de l'environnement au Mont d'Or avec des actions organisées pour les scolaires et pour le grand public. Demain lundi, la province sud organise une nouvelle journée de formation des ambassadeur du Lagon à Nouméa. De son côté, l'ADI lance ce lundi sa deuxième campagne annuelle de financement d'activités avec des réunions d'information partout sur le territoire jusqu'à vendredi. Au chapitre sportif, la fin de semaine sera marquée par les Océanias de karaté vendredi et samedi à la salle Omnisport de Lanzvata. Enfin, cette semaine sera la dernière semaine de classe pour les scolaires avant une période de vacances de 15 jours.
Vos rendez-vous sur l'antenne d'RRB demain à 7h30. C'est Sonia Baquès, la chef de file des loyalistes, qui sera notre invitée du matin pour revenir sur l'actualité politique de la semaine, l'invitation d'Emmanuel Macron, mais aussi les visites et les déclarations de Marine Le Pen et de François-Xavier Bellamy. À la fin de ce journal, ne manquez pas la rediffusion du magazine Transparence. Vendredi dernier, Elisabeth Noir recevait le député numéro 2 des Républicains, François-Xavier Bellamy. Une émission à retrouver également sur notre site internet en podcast audio et vidéo www.rrb.nc. Le départ de la Groupama Race, le Tour de Calédonie à la voile et sans escale, sera donné le 15 juin prochain. Nous en parlerons dès demain dans le Mag des Sports avec nos invités, des participants, des membres de l'organisation ainsi que Mathieu Landrieux, le président du Cercle Nautique Calédonien. Et pour préparer cet événement, RRB va vous gâter avec la galerie Port Plaisance. À partir de demain et toute la semaine prochaine, vous pouvez gagner chaque jour un magnifique lot de 40 000 francs à utiliser dans les enseignes de la galerie. Bien-être, mode, beauté, restauration, il y en a pour tous les goûts. Et vendredi, c'est un super cadeau qui sera en jeu, offert par Groupama, une sortie en mer pour deux sur le voilier de la team Groupama. Pour jouer, c'est simple, il suffit d'envoyer GR au 3146, 148 francs le SMS. Chaque jour, tirage au sort à 17h30 et le nom du gagnant dans le journal de 17h45. Des cadeaux, encore des cadeaux sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu. Dans le reste de l'actualité, c'était ce dimanche le jour du traditionnel vide-grenier mensuel de la ville de Nouméa sur la place des Cocotiers. L'affluence était encore une fois très forte sur ce lieu de rencontre et de bonnes affaires, avec souvent dans le viseur des clients les vêtements.
On est chercher du linge pour les enfants.
Du linge de marque.
Ouais, ça va, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses, c'est varié. On vient tout le temps, du coup, non, ça va, on prend ce qui nous plaît. Des linges de marque ou de tout un peu.
Tout ce que je trouve et puis qui est intéressant et pas cher,
C'est ça la meilleure technique.
Voilà.
On vient pour chercher un truc et on voit autre chose, on saute dessus, quoi.
Un vide-grenier où les vendeurs espèrent souvent revendre des articles très particuliers, les linges pour enfants et notamment pour les bébés, des habits pour les plus petits qui s'arrachent sur les stands.
Les vêtements enfants, ça se vend très bien. Ça va très vite. Dès ce matin, on a vendu quasiment la moitié de tout ce qu'on avait, la première heure. Et puis les gens, ils prennent 10 articles, 15 articles. Voilà. On fait des petits prix, mais du coup, au moins, ça part et c'est réutilisé.
C'est ce qu'on veut vendre en priorité parce que les gamins, ils grandissent vite. Et du coup, ça dure pas longtemps, juste le temps de la photo. Et puis après, faut acheter déjà des nouveaux fringues, quoi. Mais faut que ça parte. Les gens sont contents, nous on est ravis.
Surtout en ce moment où c'est compliqué pour forcément souvent un membre de la famille, c'est compliqué niveau travail, donc du coup ça fait toujours, toujours plaisir de savoir qu'il y a des petites familles qui récupèrent ce que nous on n'utilise plus, quoi.
Et je rappelle que le vide-grenier de Nouméa au centre-ville, c'est tous les premiers dimanches du mois sur la place des Cocotiers. Une journée de fête pour la communauté indonésienne du territoire. Un événement était organisé à Nouméa à l'occasion de l'anniversaire de la création du consulat général en Nouvelle-Calédonie. La gastronomie indonésienne était à l'honneur, Charlotte Coulson.
En 1951, c'est l'année de création du consulat général d'Indonésie à Nouméa. 55 ans plus tôt, les premiers Indonésiens arrivaient en Calédonie pour y travailler en 1896. Aujourd'hui, la communauté est bien installée. On estime que 6000 personnes font partie de la diaspora sur le territoire. La fête organisée aujourd'hui permet donc de célébrer cette culture et rappeler son histoire, comme le fait Patrick Askim, consul d'information auprès du consul général d'Indonésie.
Le Royaume du Bagne a été aboli, on avait besoin de main-d'œuvre. Non seulement des Indonésiens, mais aussi d'autres pays sont venus, du Japon, de Chine. Et après la Seconde Guerre mondiale, on leur a donné une option, soit rester ici ou soit revenir au pays. Donc ce sont les descendants des personnes qui sont restées, qui sont ici actuellement. Cette communauté, elle est très importante, bien que discrète. Elle a beaucoup contribué au développement économique, mais aussi à la société et à la politique. Et c'est pour ça, à travers ce genre d'événements, nous voulons aussi rappeler les origines de cette communauté. Ils ont tous l'Indonésie en leur cœur, vous savez. Et c'est pour ça, c'est aussi un événement de partage, partageant notre culture, notre gastronomie avec les autres communautés ici présentes en Nouvelle-Calédonie.
Et comme chaque année, l'événement est un succès. À 13h déjà, il ne restait presque plus aucun plat. Il faut dire que les exposants se sont préparés depuis la veille, des heures de travail pour cuisiner les fameux mets indonésiens qui donnent l'eau à la bouche.
Moi, je suis Madame Muhammad Lilis. J'ai participé première fois pour la journée culinaire indonésienne. Là, il y a manioc fermenté. Et puis ça, c'est le pastel. Dedans, il y a poulet, blanc poulet, légumes, vermicelle. Et puis molen à base de farine, de œufs, margarine, beurre. Et puis dedans, il y a banane.
Ça vous a pris combien de temps de préparer tout ça?
Hier, toute la journée. J'ai travaillé toute la journée. Et puis ce matin, bonne heure, à 3h du matin. C'est de travail, voilà.
Et c'est quoi que les gens préfèrent en général?
Oh, c'est tous parce que c'est le plat qui est spécialiste, quoi. Je sais pas tout le temps disponible. Voilà, nul par ailleurs. Il y a que ici. Et puis, il y a que une fois par an.
Et du côté des visiteurs, il y avait bien sûr de nombreuses familles indonésiennes qui ont profité de la fête pour se rassembler. Les personnes étrangères à la culture en ont aussi profité pour découvrir les danses et chants traditionnels et bien sûr pour goûter les spécialités.
Je ne suis pas d'ici, je vis en Polynésie. Je découvre un peu la culture indonésienne et c'est vraiment sympa. Là, j'ai envie de goûter de tout.
Nous, on est indonésiens. C'est bien de se retrouver à des événements comme ça. Ça nous permet de nous réunir et voilà, on est content d'être là.
Ah, c'était trop beau, elles étaient trop belles avec leur tenue traditionnelle, trop sympa.
Oui, je suis d'origine indonésienne. On se ressource un petit peu avec la nourriture, bien sûr, parce que nous, les jeunes, on ne sait pas tous faire ce que font les anciens. Et puis après, de voir aussi les spectacles qui nous rappellent un peu le pays, quoi. C'est tellement joli.
Et l'événement a pris fin à 15h, mais rendez-vous l'année prochaine pour découvrir ou redécouvrir les spécialités indonésiennes.
Il est 18h passé de 3 minutes, une page de publicité avant de voir l'actualité nationale et dans le monde, et la fin de la tournée asiatique d'Emmanuel Macron, Vietnam, Indonésie et Singapour. À tout de suite.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB. pour être les premiers et les mieux informés.
La suite de votre journal avec Michael Juneski.
L'actualité à l'international, quel bilan retenir de la visite d'Emmanuel Macron en Asie? Le chef de l'État s'est surtout employé à instaurer une influence française en Asie du Sud-Est, au Vietnam, en Indonésie et à Singapour, avec de gros contrats à la clé. Les précisions de Maïalène Trémollet pour Europe 1.
Emmanuel Macron veut encourager les pays du Sud-Est à choisir la France plutôt que leurs voisins influents, à savoir la Chine. Dans ce sens, le chef de l'État, qui considère que ce voyage marque l'ouverture d'une nouvelle ère, aura conclu plusieurs contrats sur place, comme avec le Vietnam qui a signé pour 9 milliards d'euros d'accords commerciaux avec Paris. Autre étape cruciale de son voyage, l'Indonésie, partenaire stratégique majeur en matière de défense. Si Jakarta a signé un nouveau contrat de 17 milliards d'euros avec l'Hexagone, selon l'Elysée, pas de vente de nouveaux avions de chasse français à ce stade, mais une lettre d'intention signée par l'Indonésie, dans laquelle le pays s'engage à commander de nouveaux rafales du groupe d'assaut, ainsi que des frégates légères, des sous-marins ou encore des canons César. Dernier moment phare de cette tournée élyséenne, l'ouverture par Emmanuel Macron du plus grand forum sur la sécurité en Asie, situé à Singapour. Un discours très attendu dans lequel le président français s'est appliqué à défendre la possibilité d'une troisième voie entre Washington et Pékin, en pleine escalade des tensions entre Donald Trump et la Chine.
Maïalène Trémollet pour Europe 1. Durant son discours à Singapour, Emmanuel Macron a prononcé des mots très offensifs à l'égard de la Chine, pointant du doigt ses revendications sur Taïwan. Il invite ainsi à former, je cite, une coalition des indépendants face à la Chine et aux États-Unis. À l'international toujours, Washington a fait il y a quelques jours une proposition de trêve dans la bande de Gaza, proposition acceptée par Israël. Le Hamas a donné sa réponse alors que de nouveaux tirs de Tzahal ont fait au moins 10 morts dans l'enclave palestinienne. Le mouvement terroriste se dit prêt à libérer 10 otages vivants et 18 corps en échange de prisonniers palestiniens. Pour Washington, cette réponse du Hamas est inacceptable. Le président israélien se dit consterné après des possibles attaques contre des institutions juives. En France, le mémorial de la Shoah, 3 synagogues ainsi qu'un restaurant ont été aspergés de peinture à Paris. Une enquête pour dégradation commise en raison de la religion a été ouverte. Cette semaine, l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos sera Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Une émission que vous retrouverez sur notre antenne demain soir. Ce sera juste après Info Soir, votre grand journal de 17h45. L'actualité dans le Pacifique à présent. En Nouvelle-Zélande, le ministre en charge de la dérégulation, David Seymour, occupe à partir d'aujourd'hui les fonctions de vice-premier ministre dans le gouvernement de Chris Luxon. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Cette prise de fonction de David Seymour s'inscrit dans les accords de coalition que son association des consommateurs et des contribuables avait conclu avec le Parti national de Chris Luxon et le Parti New Zealand First de Winston Peters suite aux législatives de novembre 2023 qui avaient porté la droite au pouvoir à Wellington. Conformément à ces accords, le poste de vice-premier ministre serait confié à Winston Peters pendant 18 mois, au terme desquels David Seymour en hériterait. Cette période vient de s'écouler et David Seymour a donc été assermenté hier par le gouverneur général de Nouvelle-Zélande, Dame Cindy Kiro. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
À 18h passé de 8 minutes, une dernière pause publicitaire avant de voir tout le sport.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec le sport.
Et l'actu sport après le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et la victoire des Parisiens sur l'Inter Milan 5-0. Nous l'avons largement évoqué dès le début de ce journal. D'autres événements se poursuivent et notamment en tennis, les internationaux de France. Il ne reste plus qu'une Française en lice à Roland-Garros. Loïs Boisson est la révélation chez les tricolores sur la terre battue parisienne. Elle sera en deuxième semaine dans le tournoi. Christopher Filoc pour Europe 1.
Il n'en reste plus qu'une et personne ne l'attendait si loin dans le tournoi pour sa première participation dans un tableau final de Grand Chelem. La droitière atteint donc les huitièmes de finale. La dernière fois qu'une Française invitée a atteint ce stade de la compétition, c'était en 2014 avec Pauline Parmentier. La suite pour Loïs, ce sera face à la numéro 3 mondiale, Jessica Pegula, finaliste du dernier US Open. L'Américaine partira évidemment favorite, mais pas de quoi impressionner la Française.
Non, bah, de toute façon, je pense que quand on arrive en deuxième semaine, on joue forcément des joueuses de ce calibre-là. Non, pas de pression particulière par rapport à ça. Je vais continuer à faire ce que je sais faire et on verra bien ce qui se passe.
Louise Boisson est la joueuse la moins bien classée à atteindre les huitièmes de finale de Roland-Garros depuis Serena Williams en 2018. Et si la Française de 22 ans parvient à être à 100% physiquement, elle peut créer la sensation. La Dijonnaise a tout pour briller sur terre battue, la surface de prédilection de cette grande fan de Raphaël Nadal.
Christopher Filhoc pour Europe 1. Du cyclisme avec également ce soir la fin du Tour d'Italie et le Britannique Simon Yates qui a réussi un joli coup en prenant la tête du classement général au Mexicain Isaac Del Toro à la veille de l'arrivée à Rome. En rugby, encore des affiches pour le compte de la 25e journée du top 14. Demain, le Stade Toulousain recevra Lyon dès 2h30 pour nous et le RC Toulon accueillera l'Union Bordeaux-Bègles à partir de 6h pour le choc de cette avant-dernière journée de la phase régulière du championnat de France. On passe au sport mécanique.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
À la F1 avec le Grand Prix d'Espagne, les McLaren s'élanceront en tête sur la grille de départ ce soir. Un message fort envoyé avant la course. Oscar Piastri, le leader du championnat du monde, partira en pole position aux côtés de Lando Norris, son coéquipier. Max Verstappen sur Red Bull a lui signé le troisième temps de référence lors des qualifications devant la Mercedes de George Russell et la Ferrari de Lewis Hamilton. Pierre Gasly est le meilleur pilote français. Il a signé le huitième chrono des qualifications. Isaac Hadjar, l'autre pilote tricolore, arrive juste derrière. Il s'élancera de la 9e place.
On a bien bossé en free practice. Je pense qu'on n'a jamais fait autant de tours en long run depuis le début d'année. Donc on sait que ça va être un challenge. Ici, c'est une piste où on peut doubler si on a le rythme. Donk pourquoi pas deux arrêts.
Encore un Français en lice, Esteban Ocon qui s'élancera lui de la 17e place. Grand Prix d'Espagne à suivre ce soir. Départ à minuit, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Le sport en Calédonie avec le trail de Tomo Valley qui se déroulait sur le circuit de drift de Bouloupari ce dimanche. Trois parcours étaient proposés, le Grand Vroom de 15 km, le Mini Vroom de 8,5 km, le Vroom en famille de 3,5 km. Et c'est sous un grand ciel bleu que 400 coureurs se sont élancés de la ligne de départ. Une réussite pour Laure Papin, membre de l'association Challenge Organisation.
C'est une bonne moyenne cette année, c'est ce qu'on a rassemblé sur nos événements. Alors, sauf certains qui ont beaucoup de succès, comme la SNSM qui a eu lieu la semaine dernière, où là on était à 1000. Mais on est déjà satisfait là pour une première édition, d'autant que le mois de mai est chargé en rendez-vous sportifs. Et puis on est content parce qu'on a un public aussi très familial. On avait beaucoup de gens alignés sur la ligne de départ du petit parcours avec beaucoup de familles, beaucoup de jeunes. Donc c'est intéressant aussi, ça nous fait plaisir de voir la relève qui arrive.
Et sur le Grand Vroom, Gabriel Espada l'a emporté en 1h08 d'effort devant Ludovic Lanceleur et Antoine Barguin. Chez les féminines, c'est Cassandra Quérol qui s'est imposée. Un événement multisport à Tontouta également aujourd'hui. Le club Sport Pro a choisi Tontouta donc pour organiser plusieurs compétitions. Une centaine de participants s'affrontaient en VTT, en aquathlon ou encore en run and bike, Charlotte Coulson.
Et c'est Alix Dudouet qui s'est imposé en 47 minutes et 23 secondes sur la course de VTT. Dans la catégorie aquathlon XS chez les hommes, c'est avec une avance d'une minute et 48 secondes sur François Aymar que Caril Laigle termine en pole position en 24 minutes 43. Yuna Danès s'impose chez les femmes en 28 minutes 55. En catégorie S masculine, Alexandre Bressy termine premier en 40 minutes 42 et Mélanie Ali chez les femmes en 46 minutes 19. Et puis enfin, le duo Berger, Jonathan et Enzo s'imposent en run and bike. Ils finissent premier du classement avec un temps de 27 minutes 52.
Et puis encore des résultats en football, la suite de la Super League, troisième journée de championnat et notamment cette victoire de l'AS Lossy sur Cougné, 2-0. Une surprise, l'AS Segaïcha qui s'est imposé sur le terrain de Yengensport 3-1. Un Magenta l'a emporté face au SC Neje au 2-1. Enfin, Tigasport a battu Horizon Patho 3-0.